toujours un plaisir d'écouter Mori Kanté, son célèbre Yeke Yeke. Il est 10h04 à Casablanca, 9h04 sur l'ouest de notre continent. C'est le moment de retrouver un nouveau numéro de Mars Africa. Bonjour.
Mars Africa.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Mars Africa. Bonjour le Maroc, bonjour l'Afrique. Aujourd'hui au menu, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mais pas que, il y aura de l'actualité nationale dans vos pays respectifs. Nous allons retrouver bien évidemment nos principaux consultants avec une première escale à Boïkon, Bénin, avec Élisée Nkoupatine. Bonjour Élisée. On va commencer par déjà l'équipe du Maroc, critiquée après sa victoire poussive face à la Zambie 2-1. Ça s'est beaucoup mieux passé devant le Congo-Brazzaville 6-0 et surtout un Congo-Brazzaville qui se montre être ou qui est le maillon faible du groupe du Maroc.
Bon, on peut s'exprimer ainsi, mais un match de football reste un tel, hein, pour le dire, puisque le Congo-Brazzaville, c'est vrai que depuis près de 2 à 3 ans déjà, qu'on a quelques difficultés, hein, des difficultés à enchaîner de bons résultats sur le continent concernant les différentes éliminatoires. Donc, vous imaginez, donc, le Maroc a su profiter, hein, a su profiter de la méforme de cette sélection, hein, pour pouvoir assurer la passe de 3, assurer les 3 victoires sur 3 sorties. Donc, c'est déjà impressionnant puisque l'objectif, on n'a jamais changé, c'est bien sûr, de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu dans la zone Amérique du Nord. Donc, c'est un bon résultat. Le Congo n'a pas existé. Le Congo qui perd quand même son non-match, hein, lors de la précédente journée, son non-match qui devrait avoir lieu du côté de Kinshasa. Donc, au moins, si cette rencontre avait eu lieu, eh bien, les joueurs pouvaient être un peu en jambes puisqu'ils ne servent à rien. Il ne suffit pas simplement de s'entraîner. Il faut aussi disputer des matchs pour pouvoir bien jauger son niveau. Donc, le Congo-Brazzaville n'a pas pu disputer la 3e journée qui devrait avoir lieu du côté de Kinshasa. Le ministre des Sports congolais a simplement demandé aux Congolais de ne pas disputer cette rencontre. Donc le forfait est assuré. Normalement même, la FIFA devrait sanctionner cette sélection congolaise pour ne pas avoir joué cette rencontre du côté de Kinshasa, dont le forfait est consonné. Donc pour la 4e journée, eh bien les Congolais n'ont pas véritablement existé. Les Marocains ont déroulé. Tant pis pour le Congo, tant mieux pour le Maroc qui quand même se met dans une belle posture, hein, en attendant les 6 autres matchs qui auront lieu en 2025.
On va aussi penser au Bénin qui a été un des grands bénéficiaires de ces 2 journées FIFA, 6 points sur 6 possibles et surtout l'exploit majeur de battre le Nigeria 2-1. Nigeria en ballottage défavorable dans un groupe très équilibré.
Le Nigeria qui occupe l'avant-dernière place avec 3 points, c'est vrai, l'avant-dernière place, mais le peloton de tête, il n'y a que 4 points d'écart entre le Nigeria, le peloton de tête composé de 3 équipes, notamment la surprenante équipe rwandaise qui est en tête avec un meilleur goal average, avec l'Afrique du Sud et le Bénin. Les 3 nations comptent chacune 7 points. Le Bénin a fait forte sensation, il faut le dire, hein, en s'offrant 6 points lors de cette 3e et 4e journée. Et vous venez de le dire, une victoire historique contre le Nigeria, puisque en match officiel, le Bénin ne s'est jamais imposé devant le Nigeria. C'est chose faite, cette victoire qui débâcle au même moment le sélectionneur Georges Finidi qui assurait jusque-là, en tout cas lors des 2 précédentes journées fenêtres FIFA, il était entraîneur, sélectionneur par intérim, et là il a été confirmé à ce poste. Mais les 2 matchs qui ont suivi ne lui ont pas souri, notamment le nul 1-1 à domicile contre l'Afrique du Sud et cette défaite 2-1 du côté du Stade Félix Houphouët-Boigny contre le Bénin. Le Bénin qui quand même a réalisé une très belle performance. C'est quand même une très grande performance, hein, puisque ça propulse non seulement le Bénin en tête de ce groupe, mais montre clairement que le travail a battu depuis un certain moment et pas que notre rôle est bénéfique actuellement, puisqu'il a été longtemps critiqué. un an sans la moindre victoire. La seule victoire, c'était sur tapis vert contre le Rwanda lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique qui a eu lieu. La Coupe d'Afrique qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Donc, depuis que Guénot Roy à la tête de cette sélection, eh bien, il n'a jamais connu une victoire. Maintenant, c'est chose faite, puisque avant même cette victoire, on se rappelle de ces deux matchs de FIFA joués en mars dernier où le Bénin s'est bien comporté contre la Côte d'Ivoire. Victoire 2-1. Et puis, malgré la défaite 1-0 contre le Sénégal, eh bien, les Bénois ont montré de très belles choses. Les Bénois pouvaient même remporter ce match. Un pénalty manqué par Steve Mounier. Donc, le travail abattu durant un an, ça avait maintenant bénéfique pour le Bénin. Guénot Roy l'a dit, il continue de travailler, de faire progresser l'équipe. La meilleure note, c'est bien sûr avoir fait, il est en train de faire confiance à cette jeunesse qui est en train de prendre le pouvoir petit à petit au sein de cette sélection. Je veux bien nommer Alassane Imourane et Dodo Doku qui évolue dans le championnat égyptien. Donc vous imaginez mettre deux jeunes dans l'entrejeu, c'est pas possible. Donc il a commencé par faire confiance à cette jeunesse qui a commencé par monter en puissance.
Et en termes de jeu, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est la même configuration que l'année dernière ou bien il y a plus de dynamisme avec cette jeunesse? Il y a plus de choses intéressantes à voir parce que visiblement, si le Bénin ne va pas en Coupe du Monde, parce qu'il y a de fortes possibilités, il sera l'arbitre de ce groupe et décidera si l'Afrique du Sud ou le Nigeria vont aller voir l'Amérique du Nord.
Et bien évidemment, il pourra jouer l'arbitre ou pour être plus ambitieux. Beaucoup de choses ont changé. Vous avez bien fait de le souligner puisque le schéma tactique a changé. La manière de jouer des joueurs a aussi changé. Il y a plus de rigueur, plus d'engouement, plus de volonté et beaucoup plus d'agressivité maintenant dans le jeu. Donc vous imaginez les Béninois qui ont accroché littéralement non seulement les Rwandais. Les Rwandais, le Bénin pouvait même gagner ce match par le score de 3-0. Il y a même un but qui a été refusé. On ne sait même pas pourquoi. Contre le Nigeria, le Bénin les a contenus littéralement dans leur moitié du terrain. Vous imaginez, les Bénois étaient plus agressifs et quand ils récupèrent le ballon, on sent maintenant qu'il y a eu de la possession. C'est rare fois qu'on voit le Bénin enchaîner plusieurs passes, mais depuis le match contre le Rwanda, on sent maintenant qu'il y a une maîtrise au sein de la possession, il y a une maîtrise au sein des joueurs qui ne sont plus sous pression. L'autre chose aussi, Amine Bourouk, il faudrait pas qu'on passe à côté, puisque il y a aussi cette forte pression quand le Bénin joue à domicile à Cotonou ou à Porto Novo. Il y a eu cette forte pression qui fait que, bon, on peut le dire comme ça, et que les joueurs sont sous pression maintenant. Et une fois à Abidjan où le stade n'est pas si plein, les joueurs ont joué libérés. Peut-être que ce sont les mots d'ordre de Guénot Roy. Il a beaucoup parlé avec les joueurs. Et on sent maintenant que sur le terrain, les joueurs ne se chamaillent plus, puisque on voyait souvent, surtout entre le gardien de but Satouné Alagbé, qui n'est plus titulaire aujourd'hui, et aussi Olivier Verdon, qui n'a pas été sélectionné. Donc vous imaginez, beaucoup de choses ont changé, non seulement dans le jeu, mais aussi dans le comportement des joueurs. On espère que ça pourra beaucoup apporter un plus à cette sélection, puisque le Bénin aussi rêve d'aller à cette Coupe du Monde-là. On se rappelle, Guénot Roy l'a dit, même en conférence de presse d'après le match contre le Nigeria, il a encore martelé, le Bénin rêve toujours d'aller en Coupe du Monde, et c'est pas interdit, puisque les quatre prochaines rencontres, le Bénin aura trois matchs à domicile, un seul à l'extérieur, et il faudra d'abord faire le plein de points contre le Zimbabwe et le match recours contre l'Afrique du Sud à domicile. Il faudra aussi bien se comporter contre le Lesotho, puisque les deux derniers matchs seront à l'extérieur, et l'avant-dernière journée ce sera du côté de Kigali et la dernière journée ce sera du côté de Nigeria. Donc il faudra être en confiance avant d'aborder les deux derniers match. Donc, en tout cas, tout est permis. Il suffit simplement de battre le dernier de la poule, le Zimbabwe, en mars prochain, puisque le match aura lieu à Harare, et enchaîner une autre victoire contre l'Afrique du Sud à domicile avant de jouer le Lesotho et le Zimbabwe une fois encore. Donc, vous imaginez, ça ira très très vite. Il faudra plus négliger les points et il faudra rester modeste. L'humilité, puisque après cette victoire, on lit un peu sur les réseaux sociaux comment les Béninois sont tellement heureux, ils s'emportent même. Donc, il faudrait pas que cela arrive chez les joueurs. Les
il
joueurs
faudra garder les pieds sur terre, mon cher ami, bien évidemment. Je rappelle juste que les éliminatoires de la Coupe du Monde reprennent au mois de mars 2025 et qu'en attendant, en septembre, octobre et novembre, il y aura les éliminatoires de la CAN. Le tirage au sort de ces éliminatoires est prévu le 4 juillet prochain à Johannesburg. Ça permettra aussi au Bénin d'avoir une feuille de route pour pouvoir également évidemment se qualifier à cette CAN qui aura lieu au Maroc. Merci beaucoup Élisée Oumpatine. Il est 10h14. Très bon week-end, mon cher Élisée. À très, très bientôt. À samedi prochain, si vous le voulez bien. On va bien évidemment voyager d'une partie à l'autre du continent. On va faire un saut probablement à Tunis avec notre ami Ahmed Adala. Il nous a manqué la semaine dernière et on a envie d'en savoir un peu plus. Il y a beaucoup de sujets que nous allons aborder avec lui. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde, avec la Tunisie qui a pris 4 points sur 6 possibles. Il y a aussi l'arrivée d'un nouveau sélectionneur. Il s'agit de Fozé Benzarti. Et évidemment aussi, également, les cas des entraîneurs tunisiens au Maroc et notamment de Nasser Dinabi. Bonjour Ahmed Adala, sabah al-khair.
Sabah al-khir, bonjour Amin, bonjour à tous les chers auditeurs et auditrices de Radio Mars.
Alors on va commencer par un bilan des Aigles de Carthage, 4 points sur 6 possibles, victoire compliquée devant la Guinée équatoriale, 1-0, et match nul en Namibie, 0-0. La Tunisie garde la main dans son groupe éliminatoire de la Coupe du Monde.
Alors la Tunisie garde la main, oui, mais c'est le rendement qui a vraiment inquiété et les supporters et ceux qui ont suivi le match. J'étais au stade pour le match de la Guinée équatoriale. C'était une très mauvaise copie. Un match arraché sur un penalty qui, pour les Guinéens équatoriaux, les équatoriaux gagnants, qui étaient inexistants. Bon, pourtant, ils ont peut-être oublié ce qui s'est passé en 2015. Après, on peut plus parler de l'arbitrage, ce qui s'est passé entre la Guinée équatoriale et la Tunisie lors de la CAN 2015. Mais ce sont les 3 points qui comptent. Après, un match très, 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 très compliqué face aux Namibiens, la bête noire, qui nous a battu 1-0 lors de la CAN. Un match inoubliable. Même si la Namibie a été sans star, la star de l'équipe, Peter Chaloulelé, blessé, Dion Otto qui était pratiquement quasi absent lors de ce match, mais on va pas chercher des arguments pour justifier cette mauvaise copie, mais il y avait beaucoup de blessures, ça c'est un. Deux, l'état de la pelouse, elle était catastrophique parce que à J-2 ou J-3 de ce match, sur ce même terrain de l'Orlando Stadium, il y avait un très grand événement lié aux élections présidentielles en Afrique du Sud, mais le résultat est là, un nul. Un nul dans le tableau d'affichage et un rendement très inquiétant, ce qu'a fait beaucoup de séquelles. Il y avait une polémique compte tenu de ce qui s'est passé face à la Guinée équatoriale et face à la Namibie et le tournoi en Égypte en mars. Il a été décidé de remercier l'entraîneur et de nommer un entraîneur que vous connaissez très très bien, Fawzi Benzarti, qui démarre le 1er juillet sa mission après avoir, il est actuellement à la tête du club africain. Le club africain n'était pas au courant. Fawzi Benzarti,
Benzarti, il faut jamais se dire que il est avec toi. Il peut à tout moment changer d'avis et répondre à un autre challenge.
Même s'il s'agit de l'équipe nationale, on peut pas dire non, mais
on peut pas dire non à l'équipe nationale, mais imaginez que il soit entraîneur de l'équipe nationale, parce que ça pourrait arriver, et qu'il reçoive une offre du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Libye, d'Égypte. Il y a un risque avec lui, Amine.
On va tout de même garder un peu de respect.
Bénéfice du doute, allez, on va lui accorder.
Mais en fait, il y a une autre question que se pose. À part la question d'âge, à part les dernières expériences de Fawzi à la tête de certains clubs, dont le Wydad, par exemple, tout le monde avait prédit qu'avec le Wydad, ça sera un échec. Et ben, finalement, c'était l'échec. Il y a beaucoup de questions que se posent, mais surtout, est-ce que pour son 4e passage à la tête de l'équipe nationale, si on peut faire un petit bilan, en 94, il est venu pour après le premier match lors de la CAN. En 2018, il est resté 3 matchs. En 2010, il avait dirigé l'équipe nationale lors de la CAN 2010, 3 matchs nuls et un départ. Et là, sa 4e expérience, sa 4e pige, mais surtout, est-ce que finalement il va diriger un match ou pas, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas le calendrier des éliminatoires de la CAN.
Ça devrait commencer en septembre, je pense. Il faudra juste attendre le tirage au sort début juillet.
Oui, mais on ne sait toujours pas s'il sera là en septembre ou pas, tout en sachant que La fédération, le bureau fédéral actuel, il a une prolongation de 15 jours jusqu'au 15 juillet. On sait rien, c'est le flou total. Peut-être qu'un autre bureau arrivera, il va dire que voilà, on va nommer un entraîneur étranger à la tête de l'équipe nationale.
Et puis en attendant cela, un autre entraîneur tunisien va changer d'air, continuera son tour d'Afrique. C'est Nasser Dinaibi qui a réussi une saison exceptionnelle avec l'AS FAR en championnat. Malheureusement, il n'a pas été couronné par le titre parce qu'il y avait un Raja qui était aussi fort, sinon un peu plus. Et Nasser Dinaibi va répondre favorablement à une offre des Sud-Africains de Kaizer Chiefs.
Il faut dire que cela a été joué à un point de différence, donc 72-71.
Ça s'est joué à l'avant-dernière journée, hein, il faut le dire.
Voilà, l'AS FAR a dominé pratiquement la totalité de la saison. Ensuite, le Raja est venu de loin. Il a remporté ce championnat. D'ailleurs, j'ai entendu Neb hier, avant-hier ou hier, lors de la conférence, il a félicité le Raja. Mais juste un petit détail par rapport à Nasser Dinaibi qui a réalisé une saison exceptionnelle, comme tu viens de le dire, exceptionnelle. Hein. Style de jeu, joueur, tout ce que vous voulez, résultat. Là, il est toujours en compétition pour la Coupe du Trône. Il va jouer la demi-finale contre Maghreb Fès. Il va honorer ses engagements avec l'AS FAR. Je lui ai parlé hier. Mais un petit détail très important, avant d'attirer...
Oui, Ahmed ?
Il y avait des... Oui, vous me comptez. Donc, avant d'attirer à l'AS FAR, il avait même négocié un contrat avec Kaizer Chiefs. Il était à deux doigts de signer avec le Kaizer Chiefs, mais finalement, ça a capoté parce que tout simplement, à Kaizer Chiefs, il y avait beaucoup de problèmes administratifs. Deux, ils ont exigé un staff qui va l'accompagner, un staff sud-africain. Là, il a refusé et il a signé à l'AS FAR. Là, cette année, ça va changer. Il a certainement très, très bien négocié. Il sera d'ailleurs accompagné par Khalid Ben Youssef, Elias Mzouri et un autre préparateur physique. Je pense que ça sera un préparateur physique qui tunisien qui exerce au Maroc. On va voir s'il sera lui ou pas. Mais c'est l'occasion pour lui. Il débarque à Kaizer Chiefs avec un projet, un énorme projet de remettre le club dans sa position normale.
Et en attendant, l'équipe de l'AS FAR devra trouver après la demi-finale de la Coupe du Trône un entraîneur qui pourrait l'amener à une éventuelle finale.
Un Tunisien
finale.
Peut-être.
Un autre Tunisien peut-être, je ne sais pas. Hein. Il va falloir quand même qu'on voit de quel côté lorgnent les dirigeants de l'AS FAR et s'ils ont déjà une shortlist. Merci beaucoup Ahmed Adela pour toutes ces explications. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah. Il est 10h22, cap sur Kinshasa, en République démocratique du Congo. Michel Tobo, bonjour. 4 points sur 6 possible, un nul encourageant au Sénégal, une victoire intéressante devant le Togo, et voilà la RDC qui est en lice pour la qualification. Mais attention, devant elle se trouve une surprenante sélection du Soudan qui domine pour l'instant ce groupe éliminatoire. La RDC talonne également le Sénégal, ça va être très incertain jusqu'au bout. Bonjour Michel, est-ce qu'il y a une énorme satisfaction ou c'est un peu plus mitigé du côté de Kinshasa?
Bonjour Hamid, bonjour à tous les auditeurs de Radio Marsa. Merci de m'accorder encore ce moment justement pour parler de l'actualité sportive République démocratique du Congo. Hein. On va bien évidemment parler de l'actualité, la dernière actualité justement sportive République démocratique du Congo avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, hein, avec les deux dernières journées qui se sont plus ou moins passées dans les meilleures conditions, on devait dire comme ça. 4 points sur les 6 possibles pris par les Léopards, hein, donc c'est une bonne chose, c'était l'objectif recherché bien évidemment avec ce match, hein, qui a tout déclenché, hein, ce match face au Lion de la Teranga du Sénégal, hein, justement, qui a donné beaucoup de plaisir, hein, très clairement, à l'ensemble de l'opinion publique sportive congolaise ici sur place au pays, hein, c'est l'équipe favori de ce groupe, hein, donc les Lions de la Teranga du Sénégal, et voilà, aller prendre un point à Dakar, c'était l'objectif bien évidemment. Bon, bien que il y avait un tout petit peu de l'appréhension, mais personnellement parlant, je pensais que les Léopards allaient faire un bon résultat. On va dire que sur le plan du contenu, ce n'est pas vraiment ce qu'on attendait, hein, que ce soit le match face au Sénégal ou encore face au Togo. Ça peut se comprendre c'est la fin de saison. Donc voilà, les organismes sont un tout petit peu entamés avec voilà la longue saison que l'ensemble de ces joueurs ont eu. Donc voilà, ils ont essayé de faire de l'heure au maximum justement pour ramener à ce point du match, ce précieux point du match qui comptera énormément justement au décompte final à la fin donc de ces éliminatoires. Donc 4 points, c'est un bilan positif. Bon, je dirais pas largement positif, oui, parce que on pouvait faire mieux si seulement le jeu aurait été un peu plus plaisant, mais bon, c'est pas le cas. On ne crache pas sur 4 points quand même pris devant le Sénégal et devant le Togo, difficilement même, hein, lors du match contre le Togo ici à Kinshasa. Mais bon, je pense que l'essentiel a été fait. Les Léopards vont aborder les 2 prochaines journées l'année prochaine au mois de mars face à la Mauritanie et au Soudan du Sud, hein, avec beaucoup de confiance également, tout en maintenant les objectifs de cette sélection qui est justement de revenir en Coupe du Monde 50 ans après. Donc voilà, on croisera les doigts et hein, je vous signale également que nous avons un litige, hein, avec le Soudan, hein, voilà, la République démocratique du Congo avait introduit par l'entremise de sa fédération une réserve concernant un joueur soudanais. Donc voilà, la FIFA n'a pas encore tranché par rapport à cette affaire. On attend également, ça peut faire en sorte que voilà, ce classement puisse basculer d'un côté comme dans l'autre. Mais bon, nous on est congolais, hein, voilà, on va croiser les doigts pour que la réserve puisse justement bénéficier à la République démocratique du Congo. Si ce n'est pas le cas, mais bon, voilà, les éliminatoires vont continuer. On aura l'occasion justement de jouer également contre le Soudan à Kinshasa à la fin de ces éliminatoires. Peut-être que les Léopards pourront faire quelque chose de bien. Voilà, ils sont restés dans la lignée de leur participation à la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec cette 4e place voilà, en Côte d'Ivoire il y a quelques mois. Et là, ça continue. Sébastien Desabre est en train de continuer à voilà apporter son expérience et son sens de l'organisation qui est en train de se voir tout simplement. Et il y a l'accompagnement, bien évidemment, des autorités du pays, hein, qui sont en train de donner les moyens justement à cette équipe pour atteindre cet grand objectif qui est justement de revenir en Coupe du Monde 50 ans après donc 74. Donc on croise les doigts, on se reverra en tout cas au mois de mars de l'année prochaine pour les 2 prochaines journées. Mais en attendant, voilà, on continuera à parler justement des autres actualités sportives en République démocratique du Congo. On reviendra certainement le samedi prochain avec la finale de la Coupe du Congo qui va se disputer ce samedi ici à Kinshasa, mais on en parlera bien évidemment la semaine prochaine au cours de cette émission. Merci à vous, Amine Birouk, justement, de m'avoir accordé ce petit temps. Merci infiniment à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Et voilà, on se retrouvera certainement le samedi prochain pour d'autres actualités. Salutations à vous, ainsi qu'à l'ensemble des confrères qui sont passés avant moi, ou qui sont passés avant moi, ou qui passeront peut-être après moi également. Au revoir.
Et que te salue tous. Merci à nos amis de Kinshasa. Merci à nos amis de la République démocratique du Congo. Après la pub, on ira au Cameroun avec notre ami David Eyengue pour parler un peu de ce conflit entre la FECAFOOT et le ministère qui impacte sur les Lions Indomptables qui pourtant réussissent un parcours très remarquable en éliminatoire de la Coupe du Monde.
Kazan Falatila est de retour pour une deuxième édition à Enfin Park du 21 au 23 juin. Laissez-vous emporter par la Fiesta Latina avec Elvis Crespo, et Los Van Van. Danseuse de samba, percussion, spectacle, food truck, l'ambiance latino est au rendez-vous avec les meilleurs DJ et des cours de danse en plein air. Que viva la fiesta à Casa Enfa Latina du 21 au 23 juin. Info billetterie sur casaenfalatina.com en partenariat avec Radio Mars.
Merci de votre fidélité à Radio Mars et à Mars Africa. Il est 10h28. Nous allons au Cameroun retrouver David Eyengue. Bonjour.
Bon. Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars.
Alors, le conflit entre la FECAFOOT et le ministère a continué et cela n'a pas impacté, au moins sur le terrain, sur le rendement des Lions Indomptables avec une victoire large samedi dernier contre le Cap-Vert et un match nul en Angola. Comment expliquer ce paradoxe déjà?
Alors, vous savez que le Cameroun, et je vous le disais dans quelques émissions avant, le Cameroun, c'est le Cameroun, on a l'habitude de le dire. Les Lions Indomptables ne sont plus forts que quand ils sont dos au mur. Alors, on pouvait bien imaginer, pour nous les Camerounais qui connaissons cette équipe, que cela, le conflit entre le ministre des Sports et de l'Éducation physique et le président de la Fédération ne va pas impacter sur le jeu. Parce que, les joueurs ne sont pas impliqués dans ce conflit-là. Et malgré tout, ils ont l'habitude, ils ont grandi dans ces habitudes-là, c'est-à-dire de jouer dans un environnement qui n'est pas propice malheureusement, à un football professionnel. Donc c'est dans l'adversité que les Lions Indomptables sont souvent les plus dangereux, même souvent quand l'adversité vient de dedans. Donc c'est pour cela que vous pouvez imaginer que les joueurs qui sont descendus dans l'arène samedi dernier avaient, n'est-ce pas, envie de montrer à toute l'Afrique et bien à tout le monde entier, puisque c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde, que même que le Cameroun, même secoué par des problèmes administratifs à l'intérieur de la tanière, ça ne peut pas impacter dans le jeu.
Alors, le bras de fer a quand même montré ou éclairci certaines choses. Les joueurs ont pris parti pour le ministère contre la fédération. Ou contre la personne
de Samuel Eto'o. Bien entendu, le bras de fer, malheureusement, le bras de fer, il n'est même pas terminé. Il est encore toujours ardent, ce bras de fer-là. Les deux parties ne veulent pas lâcher du lest, puisque même l'organisation d'un match officiel par la FIFA n'a pas empêché au ministre de continuer à garder le staff qu'il a nommé dans la tanière. Eh bien, c'était à Yaoundé, c'était un peu jouable parce que on était dans un hôtel qui était acquis par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Eh bien, en Angola, c'était pire parce que le staff nommé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique n'avait pas de place dans l'hôtel qui était réservé par la Fédération Camerounaise de football. Eh bien, les joueurs s'y sont mêlés parce que quelques joueurs ont gardé avec eux les membres du staff nommé par le ministre dans leur chambre. Donc, il y a des chambres dans lesquelles il y avait deux personnes, il y a des chambres dans lesquelles il y avait une seule personne. Peut-être que cela a impacté un peu sur le résultat en Angola, mais on voit aussi que l'âge avançant de nos cadres, il y a plus de beaucoup de joueurs de trentenaires dans cette équipe qui devaient enchaîner deux matchs en trois jours. Ça n'a pas été vraiment facile pour eux. C'est peut-être pour cela que les Lions Indomptables ont fait match nul du côté de Luanda, un but partout.
Et dans ce bras de fer, comme je vous l'avais dit, comme vous l'avez confirmé David, les joueurs ont pris parti pour le staff de la fédération, du ministère, donc contre la fédération. Est-ce qu'aujourd'hui la situation de Samuel Eto'o est tenable à long terme? Est-ce qu'il ne va pas finir par rendre le tablier? Parce que c'est peut-être sa personnalité clivante qui dérange un peu les caciques du ministère.
On n'a pas l'impression. On n'a pas l'impression parce que Samuel Eto'o, ça fait longtemps qu'il aurait démissionné si jamais il n'avait pas, s'il pouvait capituler. Parce que la réforme du football camerounais engagée par le staff de Samuel Eto'o, par l'ancienne gloire du FC Barcelone et la superstar mondiale du football, cette révision-là de la fédération est un travail herculéen, c'est vrai, mais nous croyons que si jusqu'à présent Samuel Eto'o n'a pas jeté l'éponge, eh bien, c'est qu'il veut aller au bout de ce boulot-là, de ce travail engagé-là, c'est qu'il veut aller au bout au moins de son mandat. Parce que il faut le dire, il a été élu le 21 décembre 2021, non le 11 décembre 2021, autant pour moi, et son mandat court jusqu'au 11 décembre 2025. Et si jusqu'à présent, avec ce conflit-là, Samuel Eto'o n'a pas démissionné, Heureusement pour ceux qui attendent que le football camerounais soit lessivé de toute sa saleté qui existe depuis 1957, eh bien Samuel Eto'o a décidé d'aller jusqu'au bout et on espère que finalement il sera entendu parce que il y a du professionnalisme qu'il veut mettre dans la gestion du football camerounais, mais il y a des contrepoids comme celui ouvert du ministre des Sports et de l'Éducation physique.
Et je rappelle que Samuel Eto'o a dénoncé du mensonge, de la traque, de la diffamation. Les verbes ou les termes utilisés sont très forts. Hein. Ça n'augure pas d'une éclaircie ou d'une décrispation de l'ambiance, mon cher David.
Écoutez, Amine, c'est qu'il dénonce aujourd'hui. Il avait commencé à le dénoncer quand il était encore joueur de la sélection. Eh bien, vous vous rendez compte, la sélection du Cameroun en 2002 était la meilleure sur le papier pour les qualifiés de la Coupe Corée-Japon. Et quand ils ont raté cette Coupe-là à cause des problèmes administratifs, ils se sont dit qu'il faut prendre les rênes de la fédération pour essayer d'apporter du professionnalisme. Vous savez que les Lions indomptables avaient l'habitude avant Samuel Eto'o de dormir à la belle étoile dans les aéroports en transit. Et pourtant, il avait certainement de l'argent sorti des caisses de l'État pour loger dans un hôtel viable qui est à la taille des ambitions des Lions indomptables. Vous savez qu'il y a eu pas mal d'autres choses, de détournements de fonds, de primes. Il y a des Lions qui réclamaient les primes depuis longtemps. Et depuis qu'il est aux commandes, ce n'est plus arrivé. Donc, ce sont des mots qu'il dénonce depuis qu'il est joueur et qu'il a décidé d'éradiquer depuis qu'il est président. Donc, en réalité, ils vont certainement ajouter un peu d'énergie dans leur adversité, mais Samuel Eto'o avait déjà prouvé depuis les stades qu'il était un joueur qui connaît l'adversité.
Merci beaucoup David Eyengue pour toutes ces explications. On se retrouve très prochainement pour continuer à suivre l'actualité d'un pays pionnier dans le football, qui a remporté 5 Coupes d'Afrique des Nations et qui subit malheureusement les contre-coups d'un bras de fer entre la FECAFOOT et le ministère de tutelle. Il est 10h36, zoom sur l'actualité des éléphants de Côte d'Ivoire avec Elisabeth Goli. Bonjour.
Bonjour Amine, bonjour.
Hein? Petit souci peut-être en termes de liaison avec Elisabeth Goli, on va essayer de la joindre. Est-ce que tu nous entends Elisabeth?
Oui, moi je vous entends parfaitement.
Là on te reçoit aussi 5 sur 5. Alors, il y a eu une première victoire à l'arraché, 1-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis il y a eu un match nul au Malawi face au Kenya 0-0. Comment peut-on juger le fond et la forme de cette prestation, de ces 90 minutes?
Ok. On peut dire qu'à l'issue quand même de cette tournée de la fenêtre FIFA, les éléphants conservent toujours la tête de la poule A avec 10 points, suivi de très près par le Gabon qui compte 9 points. Et le Burundi qui a 7 points. Donc, on peut dire que les choses sont encore serrées dans cette poule parce que la Côte d'Ivoire ne s'est véritablement pas détachée comme elle l'espérait. Parce que nombre d'entre les supporters avaient vu en cette équipe de la Côte d'Ivoire des éléphants vraiment les plus grands favoris de cette poule et ils avaient espéré vraiment les voir empocher 6 points. Mais malheureusement, ils n'ont empoché que 3 points. Et si, en fait, les choses sont encore ouvertes dans cette poule à l'issue de cette journée parce que la Côte d'Ivoire ne se contente seulement que de dominer son groupe mais sans avoir une véritable supériorité sur sur le groupe. Donc, tout est encore ouvert. On ne peut pas parler aujourd'hui. On ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire à une très grande longueur d'avance au vu de ce que nous avons constaté. Maintenant, dans le fond, on sait que certains joueurs, dans le fond de jeu, certains joueurs ont prouvé, par exemple, Seko Fofana qui a montré vraiment sa qualité de chasseur de but en inscrivant l'unique but face au Gabon. On a vu aussi Evan Guessant qui qui a fait de très bonnes choses, qui a montré vraiment des aptitudes à demeurer dans la sélection ivoirienne. Guéladoué également en a fait pareil, donc on peut dire que il reste aux éléphants à continuer de jouer ensemble, c'est sur ce groupe-là, de les maintenir ensemble afin vraiment d'avoir, de peaufiner quelque chose et d'avoir une cohésion de groupe.
Et il semble que ce soit le Gabon qui soit le principal adversaire de la Côte d'Ivoire dans ce groupe. 10 points pour la Côte d'Ivoire, 9 points pour le Gabon. Une mini polémique, je pense que il n'y avait même pas lieu de la susciter concernant la couleur du maillot de la Côte d'Ivoire lors du match au Kenya qui était de couleur blanche.
Polémique, bon, effectivement, mais ça a été justifié par la fédération, les raisons qui ont fait qu'ils ont porté ce maillot blanc. Mais bon, pour ma part, il ne devrait pas avoir de polémique dans la mesure où le blanc aussi fait partie de la couleur de la Côte d'Ivoire. Donc, tantôt c'est le blanc, c'est le vert, c'est l'orange. Bon, donc, ça devrait pas être un grand problème. Pour une compétition de qualification de la Coupe du Monde.
Donc on rappelle que la Côte d'Ivoire est toujours en tête de ce groupe qui a rien de grave, elle a 10 points sur 12 possibles. Le Gabon est deuxième avec 9 points. La Côte d'Ivoire avait déjà battu le Gabon il y a une semaine à Abidjan sur le score d'un but à zéro. Elle est en ballotage très favorable. Merci beaucoup, Elisabeth. On se retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Il est 10h40. On va continuer nos voyages respectifs. Je rappelle que le principal sujet concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde, zone Afrique. On va devoir faire un petit tour du côté de l'Afrique de l'Ouest, principalement, où se retrouvent de sélections en lice. Certaines ont marqué le pas, c'est le cas de la Guinée qui après une victoire face à l'Algérie à l'extérieur s'est inclinée à Al Jadida à domicile entre guillemets devant le Mozambique. C'est le cas du Mali qui n'avance plus ou du Burkina Faso. Voilà, trois sélections qui sont un peu en difficulté et dont nous aimerions avoir le son de cloche avec les interventions de Chérif Aliou, de Drissa Niono ou de Jean-Modeste Ouedraogo. Alors nous irons du côté du Mali dans quelques instants avec notre ami Abdelsamad qui s'active pour bien évidemment proposer les interventions de nos correspondants. Drissa Niono, bonjour.
Bonjour Amina, bonjour à toutes et à tous.
Alors après une défaite face au Ghana à domicile 2-1, les aigles du Mali n'ont pas avancé dans le sujet, n'ont pas montré des signes rassurants avec un match nul face à Madagascar 0-0.
Exactement. En tout cas, ça a été quand même une fenêtre internationale décevante pour les aigles du Mali qui n'ont eu qu'à prendre qu'un seul point lors des 6 points et donc qu'ils s'étaient censés prendre pour se relancer et se maintenir en haut du tableau dans ce groupe où, malheureusement, les aigles à domicile ont perdu en fin de match contre le Ghana le 6 juin. Une très, très, très grande déception. Et donc, qui a quand même rendu triste plus d'un ici à Bamako après, suite à un voyage, en tout cas catastrophique, catastrophiquement organisé surtout. Donc, les aigles, finalement, ne prendront qu'un seul point en Afrique du Sud contre le Madagascar. Donc, on va dire qu'une rencontre, un match nul. Donc, également, qui a valu le limogeage du sélectionneur Eric Sekouchel.
Eric Sekouchel, finalement, limogé, puisque la fédération n'a pas perdu de temps. Hein. 48 heures après ce match face à Madagascar, on lui a demandé de rendre le tablier. On l'a remercié. Qui pourrait assurer l'intérim à court terme et quels sont les profils qui sont appelés à prendre la relève d'Eric Sekouchel? Il y a la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde, ce sera à partir du mois de mars 2025, mais il y a surtout les éliminatoires de la CAN qui se disputera au Maroc, qui débutent à partir du mois de septembre prochain.
Alors pour l'instant, c'est son adjoint, surtout le premier Alou Badra Diallo Conti, et qui est le sélectionneur de l'équipe nationale U23 qui va pour le moment assurer l'intérim en attendant que la fédération se cherche un nouveau sélectionneur. En tout cas, pour l'instant, est-ce qu'il y aura appel à candidature ou est-ce que la fédération va voir elle-même et se choisir un sélectionneur qui a de l'expérience C'est toutes les questions et les interrogations qui restent quand même sans réponse pour l'instant. En tout cas, les uns et les autres également se posent la question, est-ce que on va aller également sur avec un intérimaire comme l'a été le cas Mohamed Marasouba, ou encore est-ce qu'on va finalement confirmer Conti? Donc, c'est toutes ces questions-là qui restent pour l'instant suspendues sans une très bonne réponse. En tout cas, Conti, c'était l'adjoint d'Éric Sékouchel. Pour l'instant, il y a une réunion hier au sein de la Fédération malienne de football pour parler d'abord de l'intérimaire, ensuite pour parler de la préparation de la CAN U23. Beaucoup de gens également se posent des questions si Conti est intérimaire, Conti qui était adjoint d'Éric Sékouchel, au cas où Conti lui-même ne parvient pas à faire une très bonne compétition au JO. Qu'est-ce qui va être encore alors qu'on sera un mois, alors qu'il faut chercher un très bon sélectionneur tout de suite pour remplacer Éric Sékouchel et lui donner des missions pour les éliminatoires de la CAN, comme vous l'avez souligné, ou ensuite attendre jusqu'en 2025 pour se chercher un nouveau. Donc en tout cas, c'est toutes ces questions-là d'abord. Pour l'instant, on attend la fédération qui n'a pas encore réagi après ces deux communiqués. Le premier d'abord pour limoger le coach et ensuite le deuxième pour mettre en garde surtout les joueurs qui se sont exprimés à travers leur capitaine pour demander des conditions adéquates de voyage.
On a parlé donc des regrets de la de l'opinion publique malienne par rapport au match à Madagascar, contre Madagascar, du limogeage d'Éric Sékouchel, du nom de son possible successeur, Éric Sékouchel qui a fait quand même un bilan très honorable, parce qu'on parle de 21 matchs, de 13 victoires, 5 matchs nuls pour seulement 3 défaites, dont une en quart de finale de la CAN au tout dernier moment face au futur tenant du titre.
En tout cas, oui. Et c'est en tout cas, toute compétition confondue officiellement, c'est 22 matchs, et 14 victoires, 5 matchs nuls et 3 défaites. Alors, ce sont les deux dernières défaites, en tout cas, qui ont fait couler beaucoup d'encre, et surtout la première face à la Côte d'Ivoire, dont les Maliens n'ont toujours pas digéré et n'ont pas encore oublié. Et la défaite à domicile dans un stade le 26 mars rempli également a fait penser et a surtout renvoyé les uns et les autres vers ce quart de finale également contre la Côte d'Ivoire. Certes, depuis plus de 10 ans, le Mali s'était pas qualifié, le Mali n'avait pas atteint ce niveau. Mais en tout cas, c'est la manière de perdre là qui, en tout cas, a choqué plus d'un ici à Bamako. Certes, après le quart de finale, il y a eu ces deux matchs au Maroc où le Mali avait battu et la Mauritanie et le Nigeria. Les uns et les autres avaient pensé que d'abord le coach avait tiré les enseignements de ces matchs à la CAN. Mais finalement, perdre à domicile dans un stade rempli et dans des conditions également similaires ce quart de finale perdu face à la Côte d'Ivoire. Donc, a fait couler beaucoup d'encre. Et je pense que c'est cette défaite même qui a fait couler beaucoup d'encre. Parce que après ce match, des informations déjà commençaient, des rumeurs déjà commençaient à sortir pour dire que c'était le dernier match du coach où, quel que soit le résultat face à Madagascar, le coach il allait et en tout cas être limogé. En tout cas, finalement, c'est cette décision qui a été prise. En tout cas, le coach. Après ce limogeage, on a vu sur les réseaux sociaux également qui a été salué par beaucoup de ces joueurs. Mais pour l'instant, en attendant, on ne sait pas qui va être confirmé, en tout cas, pour prendre la relève afin d'aller chercher cette qualification qui va débuter au mois de septembre, et dans octobre, novembre également, pour terminer avant d'arriver en mars. En tout cas, il y a
la suite avec les éliminatoires de la Coupe du Monde.
En tout cas, exactement. Donc, pour l'instant, en tout cas, ce que les gens quand même disent, surtout dans les commentaires sur les réseaux sociaux, ils appellent en tout cas les dirigeants, surtout les premiers responsables, aller chercher surtout un entraîneur, un sélectionneur avec beaucoup d'expérience afin d'amener cette équipe à passer un cap.
Affaire à suivre. Merci beaucoup, Drissa Niono, depuis Bamako. Nos salutations au Mali et aux Maliens. Il est 10h49, on va mettre le cap sur Conakry en Guinée pour parler de ce Sélé national plein de paradoxes. Elle est gagnée en Algérie et s'incliner à El Jadida face au Mozambique. C'est un joker qui est grillé et finalement, la performance réalisée en Algérie passe inaperçue parce qu'en tête du groupe, l'Algérie avec 9 points, le Mozambique avec 9 points devance le Sélé national de Guinée. Donc il va falloir qu'on en parle dans quelques instants. Il va falloir aussi se poser la question sur ce paradoxe. Pourquoi on n'arrive pas à confirmer un résultat ou un exploit du côté de la Guinée depuis 1976, hein. Ça devient une habitude fâcheuse qu'il va falloir quand même corriger. C'est pas possible. Chérif Alio, bonjour.
Bonjour Amine, bonjour à tous.
Alors, on avait salué la performance du Sélé national en Algérie, avec une victoire que l'on pourrait qualifier d'historique. Comment expliquer le bug à El Jadida face au Mozambique et cette défaite sur pénalty 1-0?
Ah ouais, difficile à expliquer, hein, Amine. Cette défaite du Sélé face au Mozambique, après sa belle prestance, vous l'avez rappelé, hein, face à l'Algérie, qui plus est en déplacement. Mais on se disait que le Sélé avait fait le plus difficile, hein, face à l'Algérie. Mais là, malheureusement, les Guinéens ont coulé face à l'équipe mozambicaine sur le score de 1-0. D'ailleurs, ça aurait dû être pire que cela, parce que les Mozambicains ont dominé, ils se sont créés les plus grosses occasions de la rencontre. Le Sélé n'a pas existé dans ce match-là. Kabagawara n'a pu trouver de solution, hein, pour pouvoir renverser la tendance. Voilà, à l'arrivée, le Sélé perd un match qu'il ne devait pas perdre et manque du coup l'occasion, hein, de rester en tête du classement. Parce qu'après cette défaite-là, le Sélé est désormais quatrième derrière l'Algérie et le Mozambique, bien évidemment. Et cette défaite-là, vraiment, a fait couler beaucoup d'engrais de salive ici à Conakry. On réclame d'ailleurs la tête du sélectionneur, hein, parce que là, on se dit que Kaba Diawara n'est pas du tout à niveau et que la victoire contre l'Algérie est un parcours d'accident, hein, tout simplement. Et voilà, en tout cas... L'équipe du Sélé a semé une nouvelle fois le doute dans la tête de beaucoup de Guinéens avec un jeu insipide, aucune créativité. Le meilleur buteur, l'un des meilleurs buteurs du championnat européen, Jean Girassi, n'a pas pu se mettre en évidence. On se demande comment on peut avoir un tel buteur et ne pas pouvoir créer de solutions pour lui, ne pas pouvoir créer de jeu autour de Jean Girassi. Ben, ça veut dire simplement que le problème, oui, c'est Kaba Diawara, dans la tête beaucoup réclamé aujourd'hui en Guinée.
Alors justement, en parlant de Girassi, il pose ses conditions pour aller au JO.
Ben oui, vous savez qu'il est beaucoup sollicité, hein, Girassi. Et comme je le disais, aujourd'hui, le sélectionneur a du mal vraiment à lui créer un plan de jeu avec ce qu'il a comme potentiel. Donc le garçon réfléchit à deux fois. Est-ce que déjà avec le Sélé, il a du mal? Est-ce qu'il pourra s'épanouir avec l'équipe des moins de 23 ans? Là est la question. Et en plus avec le même sélectionneur que Bagawara. Ben, Girassi qui a convoité, est-ce qu'il viendra pas? On sait pas s'il va rester sous le gaz ou bien s'il atterrira dans un autre club. Donc, tout ça font que le garçon est en train vraiment de réfléchir, hein, s'il ne prendra pas au JO ou pas.
Alors, justement, c'est une question qui est importante, d'autant plus que c'est pas une date FIFA. Donc, il faudra une autorisation de son club et un effort de la part de la fédération guinéenne. Dernière question. Il s'agit de rendre hommage à Fassiné Conté qui se retire du Sélé à 19 ans.
Absolument. Fasciné, hein, qui à la surprise générale a annoncé sur son compte Instagram qu'il faisait un break avec l'équipe du Sélé de Guinée après son non-match contre le Mozambique. Et bien avant cela, hein, cette grosse occasion qu'il rate lors de la CAN face à la RD Congo, le garçon a reçu beaucoup de critiques. Et à la dernière, aux dernières nouvelles, c'est qu'il aura reçu même des menaces de mort, Amine. Il a été menacé de mort par certaines personnes malveillantes. Et son tuteur, qui est marocain, a dit qu'il faut qu'il fasse une pause avec le Sélé de Guinée. Et Fasciné n'a pas réfléchi à deux fois. Hein, voilà, il se retire donc de la sélection en attendant de rebondir. Parce qu'il n'a que 19 ans, il faut le rappeler. Lui qui joue avec l'équipe B de Bastia et qui a signé maintenant avec les Young Boys de Berne. Voilà, la pression était tellement que Fasciné a donc décidé de se retirer. Mais là, comme je l'ai dit, le plus grave dans cette histoire, c'est qu'il aurait reçu des menaces de mort. Et donc, du coup, lui qui n'a pas grandi à Conakry, voilà, s'est dit, attends, Je viens là pour faire plaisir au peuple guinéen. Je viens pour prendre du plaisir dans le football. Maintenant, si on me menace de moi, ben mieux vaut que je prenne des reculs. Et voilà. En tout cas, c'est ce qu'on a appris. Hein. C'est une source proche de l'équipe nationale que voilà, il a été menacé. C'est pourquoi, ben pour l'instant, il préfère d'abord se consacrer à son nouveau club, les Young Boys de Berne. Voilà, que de continuer à venir avec l'équipe du Sydney.
C'est le même cas aussi, mais dans une moindre proportion pour Ilaish Moriba, qui n'a pas disputé le match face au Mozambique sous prétexte qu'il était blessé à l'épaule. Lui qui était le rassemblement de la sélection nationale et qui aurait pu être d'une grande utilité face au Mozambique.
Oui, le cas d'Ilaish est beaucoup moins grave parce que lui, il serait parti pour un consentement parce que voilà, Kaba Diawara l'a fait rentrer en cours de jeu, ce qu'il n'a pas apprécié. Lui qui pense qu'il mérite d'être titulaire avec l'équipe du Sud, donc est mécontent, il a pris sa bagage, il est rentré. Hein. En insinuant qu'il avait une douleur à l'épaule, alors que c'était pas du tout cela, c'est parce que le garçon était bien content d'avoir été voilà remplaçant et du coup il a claqué la porte, il est parti en sélection. Voilà, c'est tout le malaise aujourd'hui qu'il y a dans cette sélection de Guinée, emmenée par Kaba Diawara. Il va donc falloir se poser, bien réfléchir avant la prochaine sélection qui arrive pour le Sili au mois de mars 2025, en tout cas pour la Coupe du Monde, les éliminatoires bien évidemment, parce qu'on va jouer contre l'Ouganda et la Somalie. Et donc voilà, il va falloir donc bien réfléchir avant aussi d'amorcer les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc. Donc est-ce que Kaba passera? Il passera pas. Là, c'est la grosse question maintenant qu'on se pose ici en Guinée.
Une question à 1000 francs CFA, si vous le voulez. Merci beaucoup, cher ami. À très très bientôt, shérif.
À très bientôt,
Amine. Bonne fête à tous ceux. Bonne fête à tous ceux qui sont de confession musulmane et qui nous ont bien évidemment honorés lors de cette émission. Et nos salutations à nos autres amis, à savoir Élisée Ongpatine, Michel Tobo, David Eyengue et Elisabeth Goli. Il est 10h55 minutes, ainsi prend fin ce numéro de Mars Africa. J'espère qu'il aura été de votre goût et que vous avez appris beaucoup de choses, comme nous l'avons appris avec nos différents consultants. Nos salutations à notre ami Absamad, qu'on remercie pour les efforts fournis pendant toutes ces émissions, ou pendant toute cette émission en particulier. On va rester en musique avec Stand By Me, version de Deux Causes. Et on vous donne rendez-vous dans quelques minutes avec Makesh Relkoura. Il n'y a pas que le football avec Leila Mounjim. Très bon week-end à tous.